Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 23 novembre 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, du sport. Spécial box avec Amine Fedal, Richard Liobé, pour les moins de 65 kilos, Antonio Mastropasqua, directeur sportif du Toulouse Multibox, Thierry Drone et Romain Falandré. À 15h, de la psychanalyse expérimentale avec encéphalogramme plat. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le documentaire technologique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Jeff Lieberman.
Jeff, I had just a question for you. Either Cuban cigar or...
Cubano only.
Okay, thank you.
Je veux même pas savoir comment ils les importent.
The reason I came here is that we can't get Cuban cigars in the States. It's crazy, but we can. So the first thing I do when I get out of the plane is get a Romeo y Juliet Cubano number 2.
Ok, donc effectivement, maintenant je sais comment il les obtient, c'est tout simplement, il vient en France et il vient avec plaisir parce que c'est le seul moyen qu'il a de les avoir, ce qui peut sembler être fou. Et si vous voulez lui faire un petit cadeau, vous pouvez foncer à la cigarerie la plus proche, il veut des Juliet numéro 2.
C'est toi qui fais la trad alors?
Non.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique.
Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct du Capitole du Libre pour ce supplément week-end qui ne va pas parler de bande dessinée, qui ne va pas parler de livres. Si, on va parler de films aussi, on va parler de tout plein de choses. En tout cas, nous sommes en direct de Headset. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio FMR, il est 12h08. Et la musique d'introduction cette semaine, c'est Bassline and Rayon's Sunshine de Hulu des Digital Murders. C'est extrait d'un jeu qui s'appelle MPT Target. C'est un jeu libre assez amusant où en fait t'as des petits pingouins qui sont en haut d'un iceberg. Ils se disent oh l'iceberg en face il est marrant. Donc ils se mettent en boule et c'est un jeu où en fait on doit guider les. C'est un jeu de vol parabolique où en fait on balance les pingouins et on les envoie sur l'iceberg en face. Il y a qu'un... La semaine dernière on n'a pas fait émission. Il y a 15 jours donc vous l'avez entendu, c'était l'ouverture de la 10e saison du Super Week-end et on était en direct de la Cinémathèque. Et donc Jeff Lieberman qui est un grand réalisateur du film Z, du film Bis, et vraiment, a vraiment été super sympa. C'était vraiment une très bonne interview, une excellente émission. On remercie encore l'équipe de la Cinémathèque du festival du film Déviant, du film de Vichy, pardon, d'Extrême Cinéma bien évidemment. On est en direct aujourd'hui à l'Enset, donc pour un événement qu'on avait déjà couvert l'an dernier en direct, à savoir le Capitole du Libre. Donc un événement où on parle logiciel libre, on va parler culture libre, où on va parler aussi de tout ce qui permet finalement de partager, de share the love. Vous allez voir, vous allez aimer, enfin j'espère. En tout cas, ça va vous coûter nettement moins cher la prochaine fois que vous achèterez un ordi. Et ça me fait plaisir d'être avec deux personnes que l'on retrouve... de temps à autre sur Radio FMR. Infoset Grun, bonjour.
Salut Xavier. Non, c'est juste qu'il y a eu pas mal d'abandon dans ton équipe, donc je viens soutenir.
Oui, Morgan, il le regrette d'ailleurs. Thomas, non, il s'en fout, il a du tennis. Pouillou, bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir. Et derrière, il y a un fou furieux qui fait mon boulot que je fais d'habitude, mais j'ai tendance un petit peu moins à faire la réalisation. Bonjour Eugène.
Salut, ça va?
Ouais.
Tiens, un gène.
Ouais, il te va super bien. Alors, on va parler mode vestimentaire, bien évidemment. Il a un super pull, il a un chapeau en papier d'alu, bien évidemment. Pouillou, lui, il a carrément un t-shirt à l'effigie du 11e docteur, si je me trompe. Boy ties are cool, donc avec le nœud papillon, puisque ce soir, c'est les 50 ans d'une série non libre, donc on n'en parlera pas. On va peut-être parler d'un Bodenware, puisqu'il y a un jeu qui a été retrouvé, un jeu pour Commodore 64 qui n'a jamais été terminé, qui s'appelle Desert Bus, où on doit terminer, en fait, on doit conduire un bus d'un point A à un point B, on doit arriver à Las Vegas, on conduit un bus vide, et le but c'est échapper aux moucherons et aux cailloux. Le jeu est pourri, c'est officiellement le jeu le plus pourri, mais pourquoi j'en parle? Parce que ce week-end, c'est le Desert Bus Hop, c'est-à-dire que des gens sont en train de conduire, de jouer à ce jeu, pendant au moins 24 heures et les gens donnent, ils les regardent et en train de commenter l'action. Donc il y en a un qui a lieu au Canada, il y en a plusieurs qui ont lieu en France, je crois qu'il y en a un à Paris, il y en a un à Nantes. On peut les rejoindre sur le hashtag DesertBusFR sur Twitter entre autres, et tous les dons vont au Secours Populaire, donc c'est une bonne initiative. Et oui, les hardcore gamers, ils ont du cœur, même quand c'est pour un jeu vraiment l'un des plus pourris de la galaxie. Ils sont capables de jouer juste à appuyer sur un bouton pour faire avancer un bus.
C'est du vrai sacrifice.
On avait proposé tout à l'heure de faire un stream, on va pas le faire parce que ça va vraiment être compliqué. On va parler de plein de choses et bien évidemment je vais commencer par Pouillou. Un auteur de romans libres.
Oui.
Donc on va voir si on peut vivre d'amour d'eau fraîche et de clavier AZERTY, ou peut-être que tu es Beppo.
Que je suis
Beppo.
C'est quoi?
Ah ouais. Ah bah oui, on a dit qu'on allait éviter les questions un peu trop techniques, je pense.
D'accord, ok.
La première chose, donc, auteur de romans, ok.
Ouais.
Pourquoi dire j'abandonne mes droits d'auteur dessus?
En fait, pourquoi, c'est vraiment pas ma faute, c'est vraiment pas de mon fait, ça vient tout simplement de mes romans. Si tu veux, c'est-à-dire que moi. En gros, je me suis lancé un défi, ça a commencé en février 2012, de bloguer un roman feuilleton. Donc comme ça, d'écrire un roman feuilleton épisode par épisode. Chaque jour, j'écris, chaque jour, je publie, du lundi au vendredi. Voilà. Et en fait, le fait d'écrire chaque jour, je me suis vraiment rendu compte que c'était mes romans qui sont libres. Je suis pas libriste, moi, à l'origine. À l'origine, le logiciel libre, j'utilisais Firefox et je pensais que Chrome était un logiciel libre. C'est te dire à quel point je n'étais pas libriste. Ouais. Tu vois? Oui. Et c'est juste que je me suis rendu compte que mes romans sont libres. En gros, que le processus d'inspiration, c'est une sorte d'ogre qui va se nourrir dans tout mon domaine public. Que à chaque fois que quelqu'un lit le roman, il le recompile dans sa tête, il le réinterprète. Si tu veux, c'est lui qui recrée le roman dans sa tête. Et que bref, tous ces processus-là font que, au final, je n'ai aucune barrière à mettre entre les œuvres et le public. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça n'est absolument pas un obstacle à ta carrière d'auteur.
Absolument pas, non.
Puisque tu arrives à en vivre.
Mais alors, non, je n'arrive pas encore à en vivre. Attends. Mais là, qu'on soit bien d'accord aussi, les droits d'auteur ne nourrissent pas les artistes. Ils ne sont pas faits pour ça, à l'origine.
Est-ce que tu veux dire que le prix hors taxe d'un bouquin, seulement 7% vont à son auteur?
Exactement. Sachant que moi, je touche beaucoup plus. Moi, je touche 15%. Parce que j'ai un éditeur libre, parce que j'ai un éditeur éthique. Et donc, je touche 15% sur.
Dire que finalement, quand on libère les droits, on a plus de bénéfices pécuniaires.
Évidemment, si tu veux. Déjà, les droits d'auteur, les auteurs ne vivent pas. Hein. Si tu regardes les rapports de la Sécurité sociale des auteurs, rapport de la GSA 2011, il t'explique que 15 à 10% des auteurs arrivent à se tirer un SMIC de leurs droits. Ça veut dire que 85 à 90% des mecs ou des nanas ne vivent pas de leurs droits, très clairement. Aujourd'hui, les droits d'auteur ne nourrissent pas les artistes. Toute l'industrie du livre se nourrit des droits d'auteur, il n'y a pas de souci, sauf les artistes. D'accord.
D'accord.
Voilà. Mais quand on est dans le roman libre, alors du coup, on peut bénéficier de contrats qui sont plus avantageux parce qu'on est avec des personnes qui travaillent de manière éthique et responsable et qui essaient de donner une juste rémunération aux auteurs. On peut aussi bénéficier de dons, on peut aussi bénéficier de tout un tas de soutien, de tout un tas de... Voilà. Et surtout, on bénéficie de la renommée. C'est-à-dire que moi, mes e-books,
oui,
je les télécharge.
Parce que les dons, finalement, ce serait de la mendicité. Tandis que si c'est
non,
de la renommée.
Non,
ce
n'est pas de la mendicité.
Si c'est de la renommée, ça veut dire qu'on fait des offrandes à son dieu vivant et qu'on remercie
mais
l'artiste.
Arrête, il faut dézinguer ce piédestal sur lequel on met des auteurs. Mais c'est de la merde, ça. Je suis désolé. On n'a jamais autant écrit. Enfin, quand tu écris sur Facebook, si tu veux, t'es auteur. Moi, j'en ai rien à foutre.
Oui, mais Facebook a la propriété intellectuelle de mes écrits.
Oui, alors oui, bon, c'est complètement illégal. Donc en même temps, on peut commencer à s'amuser là-dessus et faire des test cases hein, si t'as envie. Hein. Mais non, mais c'est, clairement, il faudrait les attaquer en justice et montrer que leurs conditions générales d'utilisation sont parfaitement illégales. Mm. Voilà, même selon la loi états-unienne.
Donc, d'accord.
Voilà, bon, bref, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter à un moment donné de croire que l'auteur il est tout seul sur son petit nuage. Quand l'auteur il redescend de son piédestal, il peut bénéficier de communautés pour l'éditer. Moi, mon éditeur, c'est pas un pauvre gars que j'ai en face qui harcèle un correcteur, un stagiaire sous-payé, esclave, etc., etc. Moi, mon éditeur, c'est toute une bande de bénévoles qui sont là sur une liste de diffusion et qui bossent comme des acharnés pour faire le meilleur livre possible.
De toute façon, il y a très peu d'éditeurs de taille moyenne, ils sont tous d'une taille petite, Bragelonne et tout ça.
Exactement.
D'ailleurs, eux-mêmes, ils en vivent pas, ils le disent eux-mêmes.
Totalement.
Est-ce que le livre numérique est une chance ou un risque parce qu'on supprime les libraires?
Non, moi vraiment, je pense que c'est une grande chance que ça va vraiment casser Amazon, que ça va vraiment casser Fnac à force. Amazon essaie à tout prix d'enfermer le livre numérique, si tu veux, parce que sinon, ils sont foutus. Très
tu
clairement.
Tu veux dire que le livre, je l'achète ou je le retrouve dans un grenier 30 ans après, je peux encore le lire, je peux le prêter à mon petit cousin.
Mais le livre numérique aussi. Mais évidemment, par contre, absolument
donc, je l'achète
pas, si tu l'achètes
sur mon
chez Amazon,
Kindle, ça reste libre.
Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut avoir des livres numériques qui. Alors, attention, moi je parle de livres numériques, je ne parle pas de logbook. Les logbooks, là, ces immondices fermés dans des écosystèmes à la Amazon.
Donc avec
ou à
des
Apple,
systèmes, des DRM, voilà.
Exactement. Ou avec des DRM, ça ne sont pas des livres. Il faut arrêter les conneries. Un livre, tu peux le prêter, l'échanger, le diffuser, etc., etc. Comme on l'a toujours fait. C'est la même
ou
chose.
Ou le libérer, l'abandonner quelque part.
Exactement.
Ça me fait penser. La loi a récemment, enfin, dans le projet de loi, il y a
l'amendement Isabelle Attal.
Il y a eu un amendement. Voilà, l'amendement Isabelle Attal qui permettait de justement de différencier entre DRM et non DRM. C'est-à-dire que ceux qui allaient payer une version de leur bouquin sans DRM allait bénéficier de la taxe réduite, c'est-à-dire
de la TVA
5,5, et ceux qui étaient avec DRM allaient se manger la taxe à 20%.
Alors je pense pas que ça aurait changé quelque chose pour le consommateur. Je pense
voilà,
que c'était une véritable punition pour Amazon, pour Apple, pour Gallimard, Flammarion, Hachette, qui mettent des DRM insupportables. Attends, juste pour le plaisir, sur les DRM Adobe, quand tu achètes un livre, Gallimard, Flammarion, Achète, d'accord, un e-book.
Oui. C'est pas eux qui ont développé le système de
voilà.
DRM.
Le petit verrou, c'est Adobe. Ouais, Adobe, ceux qui nous ont fait Photoshop et ces conneries-là.
Et PDF,
PDF,
standard etc. universel aussi.
Donc voilà, c'est eux qui ont fait le verrou. Et quand tu signes les conditions générales d'utilisation pour le libérer ton petit verrou, d'accord, tu dis que tu rejettes le droit, que tu abandonnes le droit de lire ton e-book à voix haute.
Hein,
tu t'interdis, c'est marqué dans les CGU, c'est génial.
Ça pose un problème aux malvoyants, justement.
Oui,
oui, signé,
clairement.
Je l'ai jamais lu, donc du coup.
Voilà, si tu veux, c'est clairement, ce ne sont pas des livres. Et donc, ça aurait puni tous ces gens-là, si tu veux. Et donc, l'amendement est passé. Sauf que pour la première fois dans la 5e République...
Attention, on parle d'un événement récent qui a eu lieu cette semaine.
Tout à fait. L'amendement est passé et pour la première fois dans la 5e République, la loi est passée en seconde lecture en moins de 24 heures. C'est-à-dire que les lobbies, notamment clairement les lobbies de Gallimard, Flammarion, Hachette, ont servi la soupe à Amazon et Apple qu'ils traitent de diable par ailleurs. Mmh. Ils leur ont fait tout le boulot, si tu veux, pour pouvoir continuer à utiliser leur petit verrou de merde.
D'accord. Et à supprimer l'abonnement en question.
Exactement. Et ils ont fait supprimer cet amendement en deuxième lecture.
Alors, on va reparler maintenant sur le concept et culture libre.
Oui.
Y a bien une chose que Conan Doyle n'avait pas appréciée, c'est que son personnage Sherlock Holmes avait été réemployé par ailleurs, donc il l'a tué.
Oui.
Toi, du coup, c'est toute ta propriété, c'est-à-dire donc les textes que tu écris, les lieux que tu décris, les lieux que tu inventes, les personnages que tu inventes, les situations qui inventent.
La mythologie, tout ça.
N'importe qui peut se l'approprier et peut en faire quelque chose. Comment toi tu es obligé de le maintenir pour avoir une cohérence, ou est-ce qu'il y a des trucs qui te gênent?
Pour l'instant, ça n'est pas, j'ai pas encore eu de trucs qui me gênent, au contraire plutôt des trucs qui me plaisent. Typiquement, là, demain au Capitole du Livre, je fais un atelier d'écriture collaborative.
D'accord.
Je propose d'écrire ensemble un épisode hors ligne, un épisode pardon hors série, des Noé Notes, donc de la série de romans que j'écris, de la série de romans que j'écris avec des télépathes et tout ça, et donc où on va faire, tu vois, un épisode hors série et on va rajouter à la mythologie. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Il faut que les gens justement s'en emparent. Là, je suis en train d'écrire le livre 3. J'écris exprès des scènes frustrantes en espérant que des gens me reprochent. Mais pourquoi tu n'es pas allé plus loin dans cette scène? Et je leur dirai, mais vas-y, écris-la, mec.
Ah ouais.
J'ai juste envie que les gens s'en emparent. Et j'organise même
c'est
le
pas
truc.
Faire plaisir au lecteur, c'est lui dire, il manque quelque chose, à toi, faire jouer
mais
ton cerveau.
Combien de fois, moi, quand j'ai lu un bouquin, il y avait une ellipse que j'avais envie de savoir l'histoire qui s'était passée à tel endroit, à tel moment. J'avais envie d'écrire la suite, etc., etc. Les fanfictions, c'est quoi si ce n'est cette création-là? Attends, est-ce que tu te rends compte que, bon, c'est une merde, on est d'accord, mais que 50 nuances de Grey, d'accord, à l'origine, c'est une fanfiction de Twilight. À l'origine,
ça brille un peu.
La nana,
elle l'a vite viré
hein, de Twilight. Hein, elle l'a vite viré des forums de fanfiction où elle l'avait publié, si tu veux, parce qu'elle a compris qu'elle se faisait un pactole avec. Mais à l'origine, c'est une fanfiction de Twilight.
D'accord, ok.
On remixe toujours et tout le temps. Regarde les séries Sherlock et les films Sherlock qui se sont faits, qui sont complètement différents et qui sont géniaux.
C'est vrai que ce côté-là, c'est plutôt réussi. Donc, à propos des Noé Notes, oui. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est comment le trouver. Il y a le web,
oui.
Le bouquin aussi existe, imprimé.
Tout à fait.
Pour les mecs comme moi qui sont un peu vieux, qui aiment pas les écrans.
Exactement.
Ou qui en ont trop.
Eh ben, écoute, donc voilà, mon éditeur, donc, c'est Framasoft via la collection Framabook, où on a un modèle génial, c'est-à-dire que les e-books sont libres et gratuits. Tu as toutes les sources. On te dit, vas-y, édite-le et imprime-le, hein, si t'en as envie. On te le recommande. Mais tu peux aussi les acheter, donc sur framabook.org, acheter les livres. Et dans le prix du livre, il y a 15% qui me reviennent. Donc sur 22€, je touche 3,30€. Framasoft, en tant qu'éditeur, touche 1,10€, quelque chose comme ça. Entre 1,10€ et 1,40€, je sais plus exactement les chiffres. Voilà. Et si, d'ailleurs, on ne touche que ça, c'est parce que nous, les livres, par unité, si tu veux, il ne nous coûte pas 3€. Hein. Il nous coûte plutôt 8 à 10€.
Oui.
Voilà.
Oui.
Puisqu'on est quand même sur de l'impression à demande, etc. etc.
C'est-à-dire qu'en fait, tu n'imprimes que par la demande en fait, d'achat. Donc
voilà, on a un petit stock de 100.
Voilà, au lieu de les commander en 5000 exemplaires.
Exactement. Voilà. Bon, toujours est-il que voilà, framabook.org ou noenote.fr pour suivre ces aventures. Sachant que, bon, là, le livre 3, ça va être un peu spécial, il va être publié chapitre par chapitre. Mais le livre 4, on reprendra le côté un roman qui est blogué, c'est-à-dire ce sont des personnages qui bloguent leur histoire, ce qui leur arrive, exactement comme tu lisais des journaux intimes pour Anne Frank ou pour L'Herbe Bleue, par exemple. Eh bien, là, c'est un blog, voilà, et c'est des personnages qui sont. Pourquoi tu me fais un gros fuck en te grattant
C'est
nez.
Toi je qui ne... as dit, je... faites-moi des fucks pendant que je parle. Voilà, c'est une petite blague entre nous.
Okay.
Tu as aussi eu une expérience ce mois-ci qui était plutôt intéressante,
ouais.
Sur le thème de l'écriture, c'est-à-dire que s'il y en a qui font des émissions de télé qui revendent assez cher, je vais dormir chez vous, toi c'est j'irai écrire chez vous.
Oui.
Alors raconte-nous l'idée.
Alors l'idée, ça a été déjà de s'inscrire dans le mouvement absolument dingue du NaNoWriMo. Donc chaque année,
oula, on n'a pas les sous-titres.
NaNoWriMo, mais je vais te le dire, c'est National Novel Writing Month, novembre, mois national de l'écriture de romans. Chaque année, en novembre, des tonnes d'internautes, là il y a 300 000 inscrits cette année, disent, voilà, entre le 1er et le 30 novembre, j'écris 50 000 mots d'une fiction. 50 000 mots, 1667 mots par jour, environ 3 pages d'un traitement de texte. Voilà. pour te donner une idée. Et donc je me suis dit, ça, ok, je vais le tenter. Mais limite, c'est trop simple. Limite, voilà. J'ai besoin de pas être chez moi pour pas qu'il y ait mes colocs, ma famille, mes potes, etc., etc. Donc je vais demander à mes lecteurs de participer, de venir participer. Et donc je leur dis, voilà, qui m'héberge, je vais écrire mon roman depuis votre canapé en squattant votre wifi. Voilà. Et donc j'ai séparé le mois de novembre en 10 périodes. Voilà, 10 périodes de 3 jours. Et là j'ai fait donc Paris, Rouen, Brest, Rennes, Paris, Limoges, Foix. Je suis à Toulouse pendant 3 jours. J'enchaîne ensuite sur Nice, sur Lyon et Nice.
D'accord. Et qui c'est qui te reçoit? Sont des gens qui avaient déjà lu le roman? Sont des gens qui étaient intrigués par le concept?
De tout.
D'accord.
De tout, je vais avoir des lecteurs fidèles et qui sont vraiment ravis, des personnes qui sont apprentis écrivains ou qui écrivent dans leur coin, etc., et qui ont envie de partager une expérience avec un auteur. Des libristes, hein, j'ai eu notamment Adrienne, qu'on connaît bien de voilà, Wikimedia France.
Ouais, directrice des programmes Wikipédia.
Voilà. Donc, Wikimedia France.
Elle va me flinguer.
Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu mon petit frère. Là, j'étais en Ariège chez mon petit frère parce qu'il vient de demander la main de ma meilleure amie en mariage. Voilà, mon petit frère et ma meilleure amie vont se marier, donc fatalement.
Donc
voilà.
un chapitre romantique pour le coup. Hétéro.
Non, mais par contre, ça va être un chapitre où on va parler de la envie de ne pas avoir d'enfants, puisque tous les deux ne veulent absolument pas des moutards, ça les dégoûte.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc on en parlera. Tu vois, ça, c'est vrai que ça m'a inspiré. Voilà. Et donc ça va être tout un tas de monde, voilà, que je connais ou que je ne connais pas.
Ok. Si on veut dialoguer avec toi, ouais, quels sont les moyens?
Alors c'est simple. Pouhiou, c'est un pseudo tellement ridicule qu'il n'y a que moi qui l'utilise. P-O-U-H-I-O-U. D'accord
pas,
donc tu cherches Pouhiou sur n'importe quoi.
Attends, Pouhiou, comment tu l'écris?
P-O-U-H-I-O-U. Pouhiou avec un H comme dans cacahuète.
Tu vois, pour ceux qui nous écoutent en direct, évidemment, je vais le tweeter parce que sinon on ne va pas s'en sortir.
P-O-U-H-O-U.
H-I-O-U. Pouhiou. Donc soit tu vas sur nouenote.fr, tu fais contacter, c'est moi que tu vois. Soit tu Pouhiou et donc tu le trouves sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, sur Tumblr, enfin sur toutes les merdes qu'on connaît, quoi. Hein, voilà, et sur lesquelles on passe du temps.
au moins il est fin.
Bah ouais, non mais enfin voilà. J'adore ça. Mmh. Je perds tous les droits sur ce que je mets, mais je m'en branle.
Ok. C'est le suppléant week-end sur Radio FMR en direct du Capitole du Libre. Venez nous voir, Riquet, je ne sais plus, je crois que c'est au 26. Donc, y a des choses à voir. Si vous avez un vieil ordinateur crachotant, il y a peut-être des chances qu'ils vont vous le remettre d'aplomb, voire qu'ils vont réparer la charnière avec une imprimante très propre. Ouais. On va parler tout à l'heure de cartographie. On va parler aussi de photographie. Graphie libre. On va pas forcément parler logiciel parce que c'est vrai que la dernière fois on a été un petit peu obscur. Quoique, là il y en a un qui, depuis tout à l'heure, il y a Ludovic, il y a des copains aussi qui font du JavaScript et tout ça. Mais je crois que vous aurez peut-être un petit peu de mal à suivre. On va quand même vous laisser de la place et du temps. Venez voir, il y a des conférences, il y a 6-7 cycles conférences en parallèle. Il y a vraiment tout, donc il y a des ateliers aussi, des ateliers d'écriture.
Je fais aussi une conf à 17h. Hein.
Voilà, ok, donc une heure avant moi, je passerai peut-être.
Ah, cool.
Et plein d'autres choses. On va se faire un petit break musical. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Ce supplément week-end est en direct du Capitole du Libre. On va parler de cartographie. Sébastien Dino, bonjour.
Bonjour.
Donc, on va parler de cartographie et de cartographie libre. Oui. Alors, je sais, normalement, on n'est pas censé sortir de chez soi sans une bonne carte. Depuis Ulysse et depuis Le Petit Poucet, normalement, on est censé le savoir. Alors, pourquoi, en fait, il existe une cartographie libre? Je croyais que les mairies, elles avaient le cadastre.
Oui, elles ont le cadastre. Elles ont même des fournisseurs de données propriétaires. Mais nous avons besoin de cartographie libre pour faire tout ce que, les agents de l'État, tout ce que les fournisseurs de données propriétaires ne veulent pas faire. Typiquement, l'IGN, Téléatlas décident des zones d'intérêt. Ils concentrent leurs efforts sur les zones d'intérêt. Et si vous, manque de chance pour vous, vous habitez dans une zone qui est un peu délaissée, eh bien, l'IGN, Téléatlas, Google et compagnie ont décidé de ne pas faire d'efforts sur votre zone géographique parce qu'elle n'est pas touristique, parce qu'elle est à faible densité de population et vous ne pouvez rien faire contre ça. Alors que si vous avez la cartographie libre, vous pouvez décider vous-même de créer la carte de votre environnement.
Alors donc, IGN, c'est l'Institut Géographique National, oui. C'est payé par nos impôts, on achète les cartes, oui. Elles ne sont pas du bien public finalement, et des quartiers défavorisés comme le Mirail seraient très mal cartographiés, ils mettent encore des cabanes de pêcheurs à la place de mettre des superbes bars.
Alors, je n'ai pas vérifié la carte au niveau du quartier de Mirail, donc je ne me prononcerai pas, mais l'IGN, comme tous les acteurs, a des moyens limités et donc fait des choix, et ces choix sont totalement arbitraires et ne correspondent pas aux envies des gens qui, localement, ont un besoin de cartographie. Parce que la cartographie, quand même, c'est notre environnement, c'est notre appropriation du territoire. La carte, c'est ce qui représente notre environnement. Nous avons tous besoin de cartes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est considéré comme stratégique. Dans beaucoup de pays, le pouvoir de cartographier est un pouvoir régalien. Vous ne pouvez pas cartographier sans autorisation de l'État.
D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'était le cas jusqu'à la fin du 19e, quand ils ont recartographié toute la France.
Oui, ou en Égypte, c'est encore le cas. Et on peut finir en prison parce qu'on cartographie. En Chine, c'est considéré comme de l'espionnage.
Tout à fait. Ah oui, quand même. Moi, ah oui, donc ça veut dire, donc d'un autre côté, la cartographie libre, c'est là où c'est extrêmement intéressant, effectivement, c'est que on peut tous se retrouver avec des cartes qui sont libres. J'ai déjà Google Maps, il y en a qui... Non, on va pas parler des iPhones, on va éviter les...
Évite celui-là, hein.
Ouais. Troll. Ouais. En fait, comment on peut s'en servir? Il faut que j'imprime les cartes, je peux y accéder avec un smartphone, avec un ordinateur. Comment je fais pour utiliser OpenStreetMap dans mon GPS?
Ah, alors là, c'est un vaste problème. En fait, nous nous heurtons, comme dans d'autres domaines, bien connus du logiciel libre, à des problématiques de coopération avec les fabricants de matériel. Vous avez des fabricants de matériel qui vont être plutôt ouverts, qui donc vont permettre que leur GPS, que nous injections des données OpenStreetMap sur leur GPS. Garmin, par exemple, vous pouvez prendre des GPS Garmin et introduire une carte, enfin mettre dessus une carte OpenStreetMap et nous en servir. Ce n'est pas, malheureusement pas le cas de tous les fabricants de GPS, loin s'en faut. Donc il faut bien choisir votre matériel, un petit peu comme quand vous avez GNU Linux. Il y a des fabricants à privilégier parce qu'ils jouent la carte de la coopération, de l'ouverture, et d'autres jouent la carte de la fermeture.
Voilà. Oui, qui sont trop contents de vendre les mises à jour de leurs cartos.
Oui, et puis ils ont décidé surtout que vous ne deviez pas avoir la main sur votre outil informatique.
Sur ce qu'on achète finalement.
Ce qui est aujourd'hui dans la société de l'information quelque chose d'assez regrettable, parce que tout passe par l'informatique, tout passe par le numérique. Et il faut donc avoir le contrôle de ces outils-là. Nous devons avoir le contrôle de nos outils.
Alors, il existe, si je me trompe, c'est une loi qui date de 75 sur la libération des données.
78, la loi CADA.
La loi CADA, effectivement, la libération des données qui sont récoltées par l'État, qui sont anonymes, hein, théoriquement, mais normalement, elles sont libérées. Et d'un autre côté, il y a l'IGN qui commercialise ces données. Il y a un service du Premier ministre qui est censé aussi commercialiser les données. Et d'un autre côté, il y a ce mouvement open data, donc qui est ni plus ni moins que la concrétisation de ce que la loi permet depuis les années 70, où les mairies libèrent de plus en plus ces informations et enrichissent OpenStreetMap. C'est pas un peu, c'est étonnant quand même que l'État soit à une double tête.
Comme toutes les structures un peu qui ont un peu d'envergure, on assiste à de la schizophrénie. D'un côté, on a des gens qui sont très moteurs et qui ont une attitude très positive, qui favorisent effectivement la coopération, qui jouent la carte de la valeur ajoutée communautaire. Et à côté de ça, vous avez des gens qui freinent des cas de fer parce qu'ils estiment qu'ils ont une mission soit régalienne, soit exclusive et qu'ils ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Voilà. Alors après, effectivement, difficile d'expliquer cette schizophrénie. Enfin, rien de rationnel ne peut expliquer. C'est sûr que l'État, comme les grandes entreprises, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours rationnels.
D'accord. Et... ce qui est très intéressant, c'est que OpenStreetMap, donc c'est une contribution volontaire, donc ce sont des gens qui ont le temps, qui ont des moyens, parce qu'il faut être précis quand même hein, quand on reporte, et il faut avoir du matériel informatique. Et en général, le tiers-monde est très peu couvert,
oui.
À une exception. Elle est un petit peu tragique, elle a lieu en ce moment dans les Philippines. À savoir, justement, ça a été le cas pour Haïti où il y avait très peu de cartes et juste après les tremblements de terre à Haïti, tout d'un coup, on avait une carte d'une finesse absolument incroyable.
Oui, alors ça, c'est la force d'OpenStreetMap qui a été révélée effectivement qu'à Haïti. C'est un scénario qui s'est répliqué plusieurs fois. C'est qu'en fait, la communauté OpenStreetMap a une grande capacité de mobilisation et une réactivité hallucinante qui est complètement que les organismes officiels ne peuvent pas avoir. En quelques heures, les bénévoles peuvent se mobiliser et décider si on leur fournit la donnée, par exemple une image satellitaire très fraîche ou une image aérienne, de cartographier l'instant actuel, enfin l'état actuel des cartes. Et donc, il y a une équipe d'OpenStreetMap qui s'est créée, enfin un projet qui s'appelle HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, qui fait de la cartographie de crise. Et ce qui est extraordinaire au niveau de Haïti, effectivement, aucune carte existait, aucune carte récente avec des données fraîches et exactes n'existait. Après la catastrophe, c'était encore pire parce que plus aucune carte n'était valable. Une fois que les ponts sont détruits, oui. les infrastructures, les États, les grandes entreprises ont fait œuvre de charité en envoyant des satellites, en reprogrammant des satellites, en envoyant des avions, en faisant de la photographie aérienne. Soit, c'est intéressant, mais c'est pas de la donnée vraiment consolidée, exploitée. Et alors que tous les organismes officiels se demandaient encore ce qu'ils allaient faire, OpenStreetMap s'est mis en route. En quelques jours, ils ont fourni une cartographie complète de Haïti, de Port-au-Prince par exemple, avec les camps de réfugiés, les ponts détruits, les hôpitaux. Et au bout de 5 jours, les ONG qui étaient sur site ne voulaient plus qu'une chose, c'était de la donnée OpenStreetMap. Ils voulaient de la donnée OpenStreetMap dans leur GPS, ils voulaient de la donnée OpenStreetMap imprimée sur des cartes. Ils disaient, toutes les autres cartes ne nous servent à rien. Elles représentent le passé. Elles ne nous permettent pas d'intervenir.
C'est une carte vivante, c'est ça qui est très beau. Et du coup, justement, les ONG peuvent être sensibilisées à compléter elles-mêmes.
Tout à fait. Ouais. Par exemple, ça a été le cas à Haïti, mais aussi...
Dans le cas des opérations, justement, exceptionnelles, le gros problème des ONG, c'est la coordination entre elles. Et là, du coup, il y a un point commun qui est le lieu.
Tout à fait. Il y a un lieu, mais même au-delà de ces, on va dire, campagnes relativement médiatiques, actuellement, c'est le cas en Philippines, aux Philippines. Mais j'ai par exemple, moi, initié des étudiants qui partaient dans des bidonvilles en Afrique du Sud, des bidonvilles complètement délaissés. Et ces étudiants, d'une part, je leur ai appris à contribuer à OpenStreetMap, à utiliser un GPS. Ils ont commencé à cartographier ces bidonvilles. Et après, ils ont commencé à former des gens sur place. Mmh. Et les gens ont pu construire une carte de leur bidonville. Et quand vous décidez d'aménager un bidonville, de faire des sanitaires, de faire des égouts, de le viabiliser, vous êtes une communauté, vous décidez de vous prendre en main parce que l'État vous abandonne complètement. La première chose dont vous avez besoin pour discuter, pour fixer les idées, pour décider de ce qui va être fait, c'est une carte. Et aucun acteur commercial ne veut vous la faire, cette carte, puisque vous êtes un bidonville, vous n'avez aucun moyen. Avec OpenStreetMap, vous prenez quelques bénévoles qui vont initier la carte et qui vont former les gens localement. Et après, il suffit de 2-3 machines pas forcément très puissantes, et vous créez votre carte et vous, bah, tout bidonville que vous êtes, qui n'intéressez personne au monde, vous pouvez avoir votre carte et là vous pouvez commencer à dire, eh bien on va mettre des égouts là, on va mettre des sanitaires là, l'école qui est là, on va la reconstruire, on va bétonner la cour pour que les enfants puissent jouer dans une zone relativement saine.
Ce qui est intéressant, c'est une opération, c'est quelque chose qui est arrivé cette année, c'est que Michelin, qui est éditeur de cartes et qui sont des cartes propriétaires, s'est rendu compte que ils ont leur ville où est leur siège social, Clermont-Ferrand. La carte est complètement outdatée et ils se sont dit on va la refaire. Eh ben on va essayer avec OpenStreetMap.
Oui,
c'est quand même hallucinant quand même. C'est des gens qui sont employés et qui commercialisent des cartes et là pour la première fois ils éditent une carte licence libre, celle de chez eux.
Oui. Ça et c'est effectivement un fait marquant. Moi-même lorsque j'ai appris, j'ai été très agréablement surpris parce que je me doutais que ça arriverait.
En plus, ils l'ont expliqué dans un blog qui est assez amusant à
voilà.
lire.
Oui, tout soi, à fait.
Parce que c'est une aventure pour eux-mêmes parce qu'ils ont dit on va faire la carte à vélo.
Mais la carte à vélo, mais c'est, on va dire que c'est ce qui se passe actuellement, par exemple à Toulouse.
D'accord.
Je vais prendre l'exemple de Toulouse que je connais un peu mieux puisque je suis toulousain. La ville, les services SIG ont commencé à s'intéresser à OpenStreetMap et puis après le portail Open Data a été créé. Et il est intéressant de voir comment les choses fonctionnent au niveau de Toulouse. La ville a libéré des données qu'OpenStreetMap a pu incorporer à la base. Au passage, nous avons détecté dans les données de la ville des erreurs. Mm-hmm. Donc nous avons remonté au service SIG ces erreurs. Donc le fait d'incorporer de la donnée de la ville dans OpenStreetMap a permis d'améliorer la donnée de la ville.
Excuse-moi de t'interrompre, Sébastien, mais on est bien d'accord. L'erreur principale, c'est le trajet du tram Garonne.
Oui.
Vas-y, continue.
Allô, allô. Il y a quelqu'un? J'entends plus rien là. Attendez, je crois qu'il est parasite.
Donc, qu'est-ce qu'il y a justement à compléter sur Toulouse? Ça peut sembler surprenant.
Il y a encore beaucoup de choses à compléter. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, effectivement, on assiste à un changement dans les mentalités et dans les coopérations possibles, imaginables. Jusqu'à présent, on avait des acteurs commerciaux qui vivaient en autarcie. On avait des services publics qui vivaient en autarcie et des citoyens qui n'avaient pas droit à la parole. Au niveau de ce qui se passe à Toulouse, ce qui est génial, c'est que donc, la ville a publié des données. Elles ont été incorporées à OpenStreetMap. Ça a permis d'améliorer la donnée de la ville. En retour, la ville s'est dit, tiens, mais cette donnée, c'est vraiment intéressant. Elle évolue très vite, beaucoup plus vite que les autres sources de données. Du coup, comme ils ont une responsabilité, ils ne croient pas sur parole OpenStreetMap, mais ils se servent d'OpenStreetMap comme détecteur de changement pour identifier des changements qui n'auraient peut-être pas encore, qui ne leur
un bâtiment
pas encore
qui
été remonté, une rue baptisée. Anecdote,
ah bon,
le tracé géographique d'une rue est une responsabilité de la communauté urbaine.
Oui.
Enfin, le tracé géométrique. Donc, quand une rue est nouvelle est tracée, le service SIG est le premier informé. C'est parce que la ville de Toulouse fournit son service SIG un petit peu à toutes les communes. Mmh. Le baptême de la rue est une responsabilité communale. Mmh. Et dans l'agglomération toulousaine, vous avez des villes comme Toulouse, 450 000 habitants ou des choses comme ça. Mmh. Et puis, vous avez des petites communes de 250 habitants avec une secrétaire de mairie, deux après-midi par semaine, etc., qui a tout à gérer. Eh bien, cette personne-là, avant de dire « Ah oui, mais au fait, il faut que je signale qu'on a une nouvelle rue qui a été baptisée et à quel service, déjà, je dois faire remonter, je m'en souviens plus », l'information prend parfois 6 mois à être remontée. Or, cette information souvent arrive indiquée dans OpenStreetMap quelques jours après. Mmh. Du coup, les services SIG, en surveillant ce qui se passe dans OpenStreetMap, s'aperçoivent que la rue a été baptisée. Oui. Ils ne croient pas OpenStreetMap sur parole, mais ils envoient un agent sur le terrain constater qu'effectivement la rue a été baptisée et ils peuvent mettre à jour leur service SIG,
leur système d'information géographique.
Au-delà de ça, pour rester sur Toulouse et pour avoir un exemple beaucoup plus pragmatique pour la famille Michu, moi très clairement, bon, je suis toulousain, j'utilise énormément les Vélib de Toulouse, donc les vélos Toulouse. Va-t-on trouver une station vélo Toulouse sur Google Maps? C'est l'enfer. Sur OpenStreetMap, il y a tout, c'est extrêmement pratique.
Tout à fait.
Voilà, c'est vraiment, moi, c'est maintenant, c'est l'outil que j'utilise.
Et les gens sont en train de travailler, il y a déjà des outils qui existent, ils sont en train de les perfectionner, de les rendre plus accessibles au public, des systèmes de calcul de transport multimodaux, où par exemple, quelqu'un peut habiter à Rabastens, décider de venir en voiture jusqu'à l'entrée de Toulouse, puis prendre le métro, puis un bus, et puis décider de continuer à pied ou via un Vélib. Et il y a des outils qui permettent de faire ces calculs de trajet, et c'est très intéressant parce qu'aucun opérateur commercial n'a toutes ces données.
Oui.
Alors D'accord. que OpenStreetMap et compagnie arrivent à les fédérer finalement et, ou à aller les piocher là où elles sont via des API. Donc c'est très D'accord. intéressant.
Sébastien Dino, merci beaucoup. Tu es présent tout le week-end ?
Présent tout le week-end, aujourd'hui voilà. sur Stand OpenStreetMap, demain pour initier les gens qui le souhaiteront.
Alors qu'est-ce qu'il faut amener ? Un double décimètre ? Un pointeur GPS ? Qu'est-ce qu'il faut ?
Avec le temps, je vais être généreux, je vais éviter de balader les gens sur le terrain. On va se contenter de la partie informatique et j'initierai les gens à l'insertion de données dans OpenStreetMap. Et donc, il faudra juste qu'ils viennent avec un ordinateur et une connexion réseau, et enfin Wi-Fi, et c'est bon. Ils pourront contribuer.
Merci beaucoup, Sébastien. Bon week-end à toi.
Merci.
En direct à l'N7 sur Radio FMR, le Capitole.
Moi, je voulais dire que j'ai une carte à la technologie avancée, c'est la carte à bleu.
Ouais. Alors, je t'explique, parce que là, il y en a un qui m'a fait chier, c'est l'invité suivant, c'est Ludovic. À cause de lui, je fais de la cartographie. Alors, c'est très simple, c'est je suis sur un téléphone avec un petit robot, voilà. Et j'ai un programme que je lance qui, tous les points GPS où je vois, il repère tous les points Wi-Fi autour.
D'accord.
Pour tous les téléphones qui n'ont pas de GPS, ils peuvent essayer de se repérer. Il y a un autre mode qui s'appelle la GPS. Enfin bon, ouais. ça c'est technique et pur. Et il y a eu un pari. Il y avait un pot qui devait être payé pour le Toulousain qui avait le mieux cartographié. Qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier ?
Enculé, t'étais en Suisse.
Et en plus, je vais dire... t'as oublié de dire le truc important, c'est que tout ce qui est collecté, ça va dans une base qui sera ouverte et qui est ouverte avec une API et c'est libre. Donc c'est utilisable par n'importe quelle appli, depuis le shell script jusqu'à votre appli web. Enculé d'aller en Suisse, va, bâtard.
Oui, oui, ben, je voulais voir les accords de Bâle, voilà. Ben, du coup, vous avez peut-être discuté tout à l'heure cet après-midi, Sébastien.
Ok.
Un petit break musical pour vous laisser souffler. Attends, celui-ci, je l'ai déjà mis. Hop ! Il y a Eugène qui me dit ça sent bon, il est en train de renifler dessous. Je crois que certaines recettes de cuisine sont en libre. Non, non, mais c'est pas drôle là. Si vous commencez à me lire les questions, non.
Mais c'est moi qui les regarde pour éviter de poser les mêmes.
T'avais qu'à pas les écrire.
Ludovic Irinman, bonjour.
Irinman,
oui, je vais y arriver, excuse-moi.
Il n'y a pas de mal.
Donc, tu es l'un des permanents de la Mozilla Foundation. Ton boulot, c'est pas le navigateur Firefox.
Alors, d'abord, je ne suis pas permanent de la Mozilla Foundation, mais de Mozilla.com. Moi, je fais partie de la boîte.
Plus près.
Plus près du micro, il faut que je mange le micro.
Oui.
Aval, ah, c'est bon ça. Donc en fait, moi je bosse pas pour la fondation, je bosse pour Mozilla.com, la boîte qui fait le navigateur et qui fait BoutouGecko. Après, c'est sûr que la fondation fait aussi des produits, elle fait Webmaker, elle fait ce genre de choses, mais il y a des petites différences.
D'accord. Toi, ton boulot, c'est surtout autour de Thunderbird, qui est le client d'email.
Ça, c'était vrai jusqu'à novembre dernier. Depuis novembre dernier, j'ai plus que 7% de mon temps pour faire la qualité de Thunderbird. Le reste, les 93% du reste de mon temps, je suis route@mozilla.com.
Voilà, on a trouvé la racine du mal. Voilà. on va dédier d'abord cette émission à Georges Lautner qui nous a quittés et à tous ces grands défenseurs de la démocratie que sont les barbouzes. Parce que là, j'ai un parano. Parce que là, il va nous parler d'un truc, c'est chiffrer, signer les emails. Non mais faut arrêter, Snowden c'est du cinéma, c'est purement quel besoin de signer je comprends, mais de crypter ces emails.
Crypter, j'utilise pas beaucoup mes emails pour crypter, parce que je m'en fous en fait, ce que j'envoie par email, je sais ce que j'envoie, voilà. J'assume ce que je fais d'une manière générale, donc si je vais te dire va te faire enculer, ben, je vais te dire va te faire enculer.
Oui, merci.
Alors, je t'ai bien pourri l'émission, c'est bon.
Oh, on peut y aller, tu sais, on est une radio alternative, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et gros mots, crois-moi.
Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais eu le besoin de crypter pour moi. J'ai eu quelques fois le besoin de crypter pour le travail, recevoir un contrat pour qu'il n'y ait que moi qui le lise, répondre au contrat pour qu'il y ait moi qui le lise, donc bon, ça m'a jamais vraiment... Moi, j'utilise plutôt ces technologies pour signer mes emails. Et le pourquoi du comment, c'est parce que j'ai toujours pensé que, à partir du moment où on aurait assez d'utilisateurs qui signeraient leurs emails, eh bien, c'était un bon moyen de combattre le spam. Parce que aujourd'hui, je peux envoyer un mail en faisant passer pour daskritch@radiofmr.com. C'est super
simple.
C'est
.net.
C'est pas grave. Hein. Je peux faire ça. La technologie SMTP, le protocole qui est pour l'envoi des mails, il n'est pas sécur du tout, puisque quand il a été créé, à un moment où il n'y avait pas besoin. Il y avait trois universités qui connectaient, qui se connaissaient, ils étaient tous copains. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête à ça. Aujourd'hui, c'est toujours un gros trou de sécurité. Donc, l'usurpation d'identité, c'est quelque chose qui est super simple à faire en mail. C'est franchement pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un machin, il n'y a pas besoin de machin.
Il n'y a pas besoin d'aller sur le darknet.
Non, il y a juste besoin d'avoir un client email à peu près correct. Un serveur de mail assez pourri par lequel tu vas passer pour envoyer tes emails. Et voilà, je me suis fait passer pour toi. À partir du moment où tu commences à signer tes emails, tu peux plus faire ça. À partir du moment où moi je signe mes emails, j'ai annoncé partout quand j'ai commencé que tous mes emails seraient désormais signés. C'est pas complètement vrai parce que de temps en temps j'utilise mon téléphone portable pour envoyer un email ou deux, donc ils sont pas signés dans ce cas-là, mais quand j'utilise pas, mes emails sont signés par une méthode ou par une autre. Et la raison, c'est que la signature, il faut avoir la clé pour signer, et la clé elle est que sur mon ordinateur, donc elle est pas copiée ailleurs. Sauf pour mon backup, mais à partir du moment où je signe, tu es capable de te dire bah voilà, ouais, il m'a dit que j'étais un gros enculé, ouais, c'est bien Ludo qui me l'a envoyé parce que c'est signé.
D'accord, alors la signature en soi, c'est transparent, c'est-à-dire on peut, même si on ne comprend pas la signature, on peut continuer à lire les emails.
Oui, ça change rien. La signature, ce que ça ajoute, c'est selon la méthode que tu utilises, ça te rajoute un peu de texte que tu peux facilement ne pas lire, ou ça t'ajoute des choses que tu ne verras pas et que ton client email ou ton navigateur dans lequel tu liras te mettra une petite icône, ah oui c'est signé.
Et actuellement, pour le mettre en place, c'est vraiment un truc de geek ou même ma banquière qui connaît tellement peu en informatique à essayer de me vendre de la téléphonie mobile pourrait le faire.
Ça dépend. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du client que tu utilises déjà. Donc, si tu prends des clients avec une interface graphique, donc Outlook, Thunderbird et l'autre saloperie de Gnome là que j'ai oublié le nom, Evolution. En gros, ces trois-là, de mémoire, ils supportent S/MIME.
Le mail intégré de
d'Apple le fait aussi. Donc, ça c'est facile, il suffit de se procurer un certificat qui contient ton adresse email. Mm-hmm. Tu l'intègres dans Apple, tu le fous dans ta keychain, dans Thunderbird, dans Evolution et dans Outlook. Alors dans Outlook c'est pareil, tu l'intègres, c'est intégré au système. Et une fois que tu as ça, c'est une option. Faut trouver où elle est l'option, mais tu vas trouver l'option.
La plupart des gros clients mail ont cette possibilité de signature.
Voilà. Le problème, c'est que.
Encore faut-il l'activer.
Voilà, faut l'activer. Faut aller chercher un certificat. Le certificat, il va expirer tous les ans. Donc tous les ans, faut se souvenir à merde. Faut que j'aille chercher un nouveau certificat, machin. C'est gratuit. Donc on trouve encore des certificats gratuitement. Ça permet de signer. C'est pratique. C'est simple. Le problème, c'est quoi là? Il faut aller chercher le machin. Les gens qui savent pas, qui ont un client mail pourri, vont se retrouver avec une pièce jointe qu'ils appellent PSM machin. Ils vont essayer de cliquer dessus, il va rien se passer. Ils vont dire, c'est quoi que tu m'as envoyé comme pièce jointe? Pour peu que tu aies oublié que tu signes tes mails, tu vas dire, je sais
donc
pas.
C'est quand même encore, il y a quand même un gros boulot pour faciliter.
Ça,
le boulot,
c'est S/MIME. Pour PGP, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est pas à la portée de la banquière. Mais pour PGP, ce qui est compliqué, ça va être la mise en œuvre initiale. Mmh. Donc la création de la clé. Mais une fois que la clé est clé, c'est trois clics à faire. Et après, ça devient transparent pour l'utilisateur. De temps en temps, il doit rentrer un mot de passe en plus. Voilà. C'est tout. C'est pas la fin du monde, mais pour l'utilisateur lambda, ça va être pourquoi je me fais chier à rentrer mon password en plus, mon mot de passe en plus. Alors que j'en ai pas besoin et je vois pas à quoi ça m'apporte. Donc moi je pense qu'encore c'est un truc de geek. Je pense qu'à terme il y a moyen de faire mieux en termes de technologie facile, pour les utilisateurs. Et par exemple au Danemark, sur leur carte d'identité, carte de sécu, ils ont une puce et sur la puce ils ont tous un certificat avec leur email dedans. Donc il y a quelques endroits au monde où les gens ils prennent avec leur puce, n'importe où ils sont, ils peuvent utiliser leur puce pour signer. Alors c'est pas fait, mais il y a moyen de faire. Moi, ce que j'aimerais bien sur le long terme, le chiffrage, c'est un truc pratique. Voilà, tu veux pas te faire gauler quand tu trompes ta femme. Voilà, avec ta maîtresse, tu chiffres, c'est tranquille. Il n'y a que toi et ta maîtresse qui pourront lire, mais bon, c'est un peu compliqué pour tromper ta femme, quoi. Moi je trouve que la signature est plus intéressante. D'accord. Parce que la signature elle permet de dire que c'est toi et avec ces outils là derrière tu peux aussi signer tes applicatifs, tu peux signer plein de choses.
Mais là on donne des outils pour les méchants pas beaux. C'est pas pour les gentils, le fait de pouvoir crypter ou de signer comme ça c'est mal.
Pourquoi c'est mal?
C'est mal, et en plus, quand on crypte, c'est pire que tout. Ça veut dire que la gentille police ne peut pas regarder ce que font les méchants dealers de cam et voleurs de MP3.
Alors, ce qui se passe, effectivement, mais quelque part, si t'es parano au point de penser que tous tes mails sont lus et tous tes mails sont interceptés et tous tes mails sont analysés, à partir du moment où tu encryptes et à partir du moment où tu signes, il y a certainement quelques drapeaux qui se lèvent pour dire ouh, qu'est-ce que c'est que cet utilisateur qui envoie que des emails cryptés. Et donc, au lieu de passer inaperçu dans le flow dans un flow assez important, tu vas te retrouver à être flagué et à être suivi de plus près. Et c'est pas pour ça qu'ils viendront pas chez toi pour te piquer ta clé et pour lire ce qu'il y a dans tes emails. Parce que à partir du moment où ils ont la clé, ben t'es niqué.
Alors, ça servirait à qui déjà outre de signer, de chiffrer ses emails, peut-être pour recevoir des contrats de la concurrence quand on est au bureau.
Ouais, pour ce genre de choses. Alors ça sert à plusieurs choses. Donc, la signature, et c'est plus la signature qui m'intéresse que le chiffrement lui-même. La signature, elle authentifie que c'est bien toi qui as envoyé. Mmh. Voilà. Et ça, je trouve que ça,
c'est un côté sécurisant pour la personne qui est en face, en fait.
C'est un côté légal. Ça n'a pas un côté légal encore, mais ça a un côté de dire, bah voilà, j'ai reçu un mail tout fou de la personne que je connais bien, que je pensais pas que j'allais recevoir de cette personne-là. Mm. Il est signé. Je suis sûr qu'il a été envoyé de son ordinateur. Après, s'il y avait quelqu'un sur l'ordinateur et il avait un flingue sur la tempe, ça change rien, quoi. Tu vois, mais
oui, bon,
ce que je veux dire, c'est que quelque part, la signature, elle permet d'authentifier un mail et c'est le seul mécanisme. C'est le seul mécanisme aujourd'hui que je connais qui permet d'authentifier un mail. Le chiffrement, ça a de la valeur dans un espace commercial ou dans un espace concurrentiel. Pour envoyer ma chérie je t'aime, je rentre à 19h, t'as pas besoin de chiffrer ton mail. Par contre, ça dépend. Oui, si c'est pas à ta femme, mais si c'est à ta maîtresse, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as le chiffrement lui-même, c'est plus orienté. Ça a de la valeur ajoutée, ça a de la, dans un environnement concurrentiel et a priori, in fine, commercial.
Là où il y a du secret, en fait. Voilà.
Là où le secret a une valeur financière. Mmh. Le fait que tu aies trompé ta femme, il n'y a que toi qui le saches. Pas besoin de.
Ah, ça sonne.
Ça sonne, ouais.
Ça sonne. Bah, justement, ouais. Puisque elle doit t'écouter, à mon avis.
Non, c'est quelqu'un qui a retweeté. C'est pas bien, hein. Ça doit être la photo que j'ai mis en ligne de ta pomme en train de faire l'émission.
Ah, c'est sympa.
Concernant les signatures, donc, ou même le chiffrement, donc, les clients actuels, les clients de messagerie, que ça soit Thunderbird, Outlook.
Ouais, les clients de messagerie.
Mais est-ce que c'est aussi disponible sur les webmails? Je pense à Yahoo, je pense à Gmail.
Ça l'a été un moment. Ouais. Et il y avait une extension pour ça. Et le gars qui faisait ça, il a arrêté parce que Gmail changeait 3 fois par jour. Ouais. Et il n'arrivait pas à suivre pour faire ce qu'il avait besoin de faire. Si je me souviens bien, j'ai pas pris de notes pour ça, pour les présentations que je vais faire ce week-end.
Donc tu veux dire qu'il y a quand même des boîtes qui ne sont pas concernées, qui nous fournissent des emails et qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas d'intérêt.
Ouais, d'une part. Et d'autre part, il y a des extensions, je ne les ai juste pas en tête, pour le faire sur un webmail. D'accord. Pas forcément tous les webmails, mais si c'est un gros webmail, il y a des chances d'en trouver.
Mais par contre, sur un client mail, il y a aucun souci.
Tous les clients mail que j'ai essayés, ils supportent OpenPGP et la plupart les certificats.
D'accord.
Après, c'est juste trouver la configuration qui va bien. De nos jours, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 20 ans. Je crois que ça fait 20 ans, ouais. Ça doit faire 20 ans que je joue avec ce truc-là. La première fois, j'ai voulu faire ça avec un copain, envoyer un mail. Créer une KPGP, putain, on a jamais réussi à le faire marcher.
Fais-moi penser à faire la même chose pour le RSI quand je leur envoie des mails signés, qu'ils doutent à chaque fois.
Ok. Juste une chose, donc demain, un atelier.
Ouais, donc demain.
Donc il faut venir avec son PC quand même.
Demain, c'est mieux de venir avec son PC, ouais. C'est mieux de venir. Ça dépend, on fait deux choses à l'atelier.
T'entends, on gêne. Je sais, toi, tu as un moniteur 21 pouces, ça va être un peu encombrant à tube.
Donc.
À plusieurs tubes.
On a, non, on n'est pas obligé de venir avec.
Moi, je ne veux pas signer mes mails, c'est trop risqué. Ah,
c'est vrai qu'il y a aussi ce détail-là.
Voilà, donc demain, on a deux activités à l'atelier. La première, c'est de l'assurance CACERT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, CACERT.org, c'est un organisme qui fournit des certificats pour le web, pour le mail. Et au lieu de payer 256 $ par an pour avoir un certificat, c'est gratuit. Mais il faut que tu fasses reconnaître ton identité par des assureurs. Donc demain, il y aura, je crois, il y a moi déjà comme assureur, il y a deux autres assureurs qui ont dit qu'ils allaient passer. Donc on vient, il faut s'inscrire sur CERT avant, c'est mieux, et venir avec
des assureurs.
Ouais.
AXA, GF, Allianz.
Non. Donc l'assurance à ce niveau-là, la seule chose que les assureurs vont faire, ils vont vérifier ton identité. Donc il faut venir avec un papier et deux papiers d'identité. On va vérifier, d'accord. On va s'assurer que les papiers d'identité, la photo ressemble à ta pomme, machin, truc bidule. Et on va te signer un papier en disant voilà, aujourd'hui à telle date on a rencontré monsieur, il m'a présenté ces papiers-là. Donc il m'a présenté une carte d'identité et un passeport. Et je vais te donner des points. Je vais te donner 15 points. Et à partir du moment où tu as un certain nombre de points, plus tu as de points, plus tu es sécur.
Tu veux dire qu'en présentant par exemple un permis et une carte d'identité.
Ouais, plus le papier d'assurance que je dois remplir.
D'accord, ben voilà, et normalement c'est bon, je suis.
Je te donne des points, et donc en fait ton certificat prend de la valeur.
D'accord.
Et donc tu peux te générer à partir du moment où tu as un certain nombre de points sur le site de CACERT, tu peux te générer plusieurs types de certificats. Le premier type de certificat que tu peux gérer, tu peux pas faire grand chose avec. Mais à partir d'une certaine valeur de points et de confiance qu'on t'a accordé, tu te retrouves avec un truc qui fait du SSL normal avec de l'encryption assez forte. Donc ça, c'est l'activité CSR demain. Demain, on fait aussi une signature de clé PGP. Donc pour ça, c'est mieux d'avoir une clé et faut venir avec, pareil, un papier d'identité. Mmh. Et des petits papiers sur lesquels on a inscrit son adresse email et le fingerprint de la clé. Donc pour obtenir le fingerprint de la clé, la petite commande c'est PGP -- fingerprint l'ID de la clé.
Voilà. Oh non, on avait dit
pas technique, c'est
vous
ça.
Vous m'avez rien dit. Vous l'avez dit peut-être avant, mais pas à moi. Donc voilà, on vient avec ça et on se reconnaît les uns les autres. Mm-hmm. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ma clé à moi, je vais signer les clés des gens que j'aurais reconnus.
Ah, il va nous venir.
Ensuite, voilà. C'est à peu près ça. Vous allez faire, vous allez faire la même chose, d'accord ?
Ok.
Et donc ensuite, on envoie les clés sur les différents serveurs de clés du monde qui existent. Et ça va permettre, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, comme je sais pas ton nom, il va falloir que tu me le redises.
Benoît.
Voilà. Donc je vais prendre un exemple très concret. Je vais signer la clé de Benoît. Mm-hmm. Et Benoît va envoyer un mail signé à Xavier. Mais Xavier n'a pas signé la clé de Benoît, donc ne connaît pas Xavier. Mm-hmm. Mais moi, j'ai signé la clé de Xavier. Et donc, comme je suis un tiers de... Je vais servir de tiers de confiance entre vous deux. Et donc Xavier va dire, ah oui, c'est bien Benoît qui m'a envoyé le mail parce que Ludo a reconnu que c'était Benoît.
D'accord.
Et qu'il l'a fait savoir à tout le monde.
Alors, comment on fait quand on a plusieurs adresses email? À chaque fois, il faut une clé différente.
Non.
Tu peux avoir une... Okay.
Tu peux avoir.
Et donc, si j'ai plusieurs ordinateurs et plusieurs, je peux avoir avec une seule clé. Donc.
Ouais.
Ok. Voilà. Ah bah, je serais pas venu pour rien, même si on parle technique.
En fait, tu as un ID principal pour ta clé. Et dessous, sur chaque clé, tu peux rajouter des identités.
Mm-hmm. D'accord.
Donc, en fonction de comment tu veux gérer tes clés, de combien de temps tu veux garder tes clés, de quel est ton travail et pourquoi tu utilises tes clés. Moi, je les utilise pour le travail, par exemple. Mm-hmm. J'ai un fichier au travail qui contient tous les passwords des 5000 serveurs qu'on gère. Il est protégé par ma clé PGP. Mmh. Donc, quand j'ai rejoint cette équipe-là, je me suis posé la question, est-ce que je crée une nouvelle clé ou est-ce que j'ajoute ça à ma clé? Et j'ai eu la flemme de créer une nouvelle clé, de gérer une nouvelle clé. Donc, j'ai rajouté l'identité lirliman@mozilla.com dans ma clé. Donc, en fait, ma clé, aujourd'hui, il y a 5 ou 6 email adresses qui sont associées. Le truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai deux anciennes clés. Il y en a une, je l'ai perdue un jour. Et donc, tu pourrais encore voir mes anciennes adresses d'il y a 10 ans. Et avec une clé qui n'est pas révoquée parce que j'ai perdu la clé.
Pas classe.
Aïe.
Pas classe.
Voilà, donc il y a des petits soucis sur le long terme. Donc maintenant je fais un peu plus attention. Mmh. Voilà.
Mmh. Et pour dupliquer une clé, il faut aller chez le serrurier en bas.
Pas du tout, tu copies le répertoire .pgp. Voilà,
okay.
C'est fait.
D'accord.
Tu copies d'une machine à l'autre, c'est fait. Il faut installer PGP sur toutes tes machines. Et à partir du moment où tu as fait ça, si tu copies le répertoire de conf qui est dans ton répertoire à toi, et basta.
Alors juste une chose, puisque tout à l'heure tu parlais de voir ta maîtresse et tout ça, heureusement, je vous rassure, c'est pas vrai. Et surtout, je crois que tu es à l'approche d'un très heureux événement.
C'est pour ça que je regarde mon téléphone.
Ah d'accord. Ah oui, bon bah alors on va te libérer.
Elle est à 39 semaines, donc je lui ai interdit d'accoucher ce week-end, voilà.
C'est pas sûr que ça marche.
D'habitude c'est l'inverse.
On verra bien. Et j'ai dit, si t'accouches, t'as le droit d'accoucher ce soir, cette nuit, avant 11h demain. Ou après midi et demi demain.
Voilà. Bon, on verra. En tout cas, merci Ludovic d'être passé. Et
c'est le plaisir est pour moi.
Ouais.
Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de radio. Donc
ouais.
C'est cool.
Ouais, tu sais, d'habitude, hein, on parle BD, ciné et tout. Tu nous écoutes.
Non.
Connard.
La dernière fois que j'ai fait de la radio, c'était en 89 et c'était sur Radio Anguin. C'était pour parler punk.
Oula.
Voilà.
On te remercie beaucoup.
Eh ben, de rien.
À toutes. Thank you. Radio FMR sur 89.1 MHz et en stream sur www.radio-fmr.net. C'est le supplément week-end numéro 369 en direct du Capitole du Libre à l'N7. On reçoit Pierre Sim. Salut Pierre.
Salut
Pierre Sim. Oh, je sais plus, à chaque fois je sais pas comment.
Pierre Sim, c'est très bien.
PS.
Aussi.
Elle le vit. Elle était nulle. Elle était nulle. Mais je le reconnais. Pierre Sim, en fait, contribue à la Wikipédia. Et principalement à la Wikimédia. Et toi, ton truc, c'est plus l'image que l'écrit.
Ouais, alors en fait, je suis d'abord arrivé sur Wikipédia de par plutôt mes études et mon boulot. Donc, comme j'ai commencé à faire une thèse, mes recherches, je tombais souvent sur les pages de Wikipédia. Il y avait des choses que j'avais envie de corriger, donc j'ai commencé à éditer. Et j'ai mis le doigt dedans en 2006 et depuis j'ai pas arrêté. Et après je suis venu à l'association des Wikimedia France, une association qui promeut l'utilisation de Wikipédia, qui promeut ses projets en France. Donc on ne les édite pas, on n'est pas hébergeur, mais on vient soutenir l'utilisation et typiquement dans des événements comme le Capitole du Livre.
D'accord. Et en fait, ton truc, c'est la photographie. Donc, c'est un petit peu particulier parce que autant on peut à peu près écrire comme on veut, on ne peut pas photographier tout ce que l'on veut. Et ouais, c'est la grande surprise. Ouais. En France, on n'a pas le droit de photographier dans la rue.
Ouais, non, c'est.
Ah.
C'est. Oui, c'est un peu bizarre. C'est bizarre et c'est logique. En fait, on vit dans un monde où on a un système de droits d'auteur qui est censé protéger les auteurs, pas obligatoirement, mais qui est censé protéger les auteurs. Et les architectes qui font des plans sont des auteurs, et donc du coup leurs bâtiments sont soumis aux droits d'auteur comme n'importe qui en fait. Donc en France il n'y a pas d'exception à ce droit. Donc
les affiches Oxlittery sont soumises aux droits d'auteur, les statues équestres postmodernistes sont soumises aux droits d'auteur.
Voilà.
Et donc théoriquement on ne devrait pas pouvoir prendre de photos dans la rue.
Si, on peut très bien les prendre, après c'est la publication qui est plus compliquée.
Ah,
en France.
D'accord. Et donc toi en fait tu photographies principalement des gens. Qu'est-ce qui motive en fait les sujets que tu vas prendre et comment tu vas les reverser aux sources de l'Encyclopédie Libre
hein. Bonne question.
Ah, je sais, Pierre Sélim, elle est un peu hardcore là. Mais...
Surtout, c'est selon mes envies en fait, plus qu'autre chose. Ce genre de choses, ça reste du bénévolat, donc on fait un peu ce qu'on veut et quand on veut. Et... Donc quand j'ai envie de photographier, je photographie. Et si ça me paraît être utile pour l'Encyclopédie, je le verse. Et voilà.
C'est intéressant parce qu'à Toulouse, d'habitude, les musées ont une vision assez froide du mouvement libre. Et le Muséum d'Histoire Naturelle a fait un truc complètement dingue. Ils ont ouvert leur collection, celle qu'ils n'exposent pas, aux Wikipédiens et vous êtes allés pour les photographier.
Exactement. Le Muséum, depuis 2010, nous ouvre leur collection et on peut aller dans... Enfin, leur réserve. Et donc on peut aller dans les réserves, prendre en photo les objets. Typiquement, le constat, c'est qu'eux, ils ont 2500 pièces qui sont exposées et ils en ont plus de 2 500 000 en réserve.
Ah.
Et donc, si, enfin, leur but,
oui,
c'est quand même de...
Oui, parce qu'il y avait un gigantesque herbier qui datait du 18e, absolument superbe, des pièces que personne ne pouvait voir jusque-là.
C'est ça. C'est, ouais. Et donc, du coup, ça permet de libérer ces choses-là. Donc, petit à petit, parce que le projet donc avance, mais on n'en est qu'à 2000 photos ou 2500 photos.
Ah oui.
Mais... Ça avance et c'est des photos qui sont bien documentées avec toute la documentation qu'il y a au muséum. Ça prend du temps, mais...
Mais après, vous le faites comment ? C'est-à-dire, le muséum dit, tel jour, vous êtes autorisé à faire des photos.
Ouais, on essaye de prendre rendez-vous avec les conservateurs pour qu'ils puissent nous ouvrir les réserves. Parce que typiquement, il y a des pièces qu'on peut pas manipuler n'importe comment. Par exemple, quand on va prendre en photo des papillons, c'est des objets qui sont très fragiles.
Ah oui, oui.
Donc, il y a
systématiquement, pour manipuler, un conservateur à côté, quoi.
Souvent, il y a un conservateur à côté pour vérifier qu'on fait pas de
bêtises. E232, truc comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Un conservateur E232
Non, un conservateur, un vrai, un humain.
D'accord.
Ou une humaine, ça marche très bien aussi. Typiquement, quand on va prendre en photo des papillons, nous, ce qu'on veut, c'est... pour l'encyclopédie, c'est d'avoir les deux faces du papillon. Donc souvent, il y a une face exposée. Le papillon est déjà préparé pour montrer une face. Et le moment où on demande au conservateur, oui, on pourrait le retourner. Alors là, il nous regarde bizarre, genre, mais qu'est-ce que vous voulez faire là ? Non. Et bon, au bout d'un moment, on arrive à le convaincre que c'est quand même très important de voir le dessous du papillon. et d'avoir la photo, mais ça prend
que
du temps.
Que eux-mêmes, ils n'avaient pas vu.
Mais voilà.
Depuis deux siècles.
Ouais, c'est des pièces qui sont très très vieilles, genre de 1800 et quelques. Et, on arrive à en trouver. Et des fois, on en retrouve dans les réserves, c'est-à-dire que les gens ne savaient même plus qu'il y avait ça dans les réserves.
Ah oui. Ah
mais ouais, c'est funky,
alors,
hein, c'est...
alors ça a été comment? Au début, c'est chacun se regardait en chien de faïence, et maintenant il y a des... Vous allez boire des bières en sortant, ce genre de choses?
On va quand même pas boire des bières en sortant, mais on a des très bons contacts, dont en fait un bénévole qui fait partie de l'Institut Pico de la Pérouse, et qui est président d'ailleurs de l'Institut d'Histoire Naturelle de Toulouse, et qui permet de faire le lien avec le muséum et donc avec les conservateurs. Mais non, on va pas non plus boire des bières ensemble, pas encore.
Tu as aussi une spécialité photo, puisque on se suit, hein, on se voit, ouais. Ça fait un bail qu'on se connaît. Tu vas suivre le rugby, mais là, le rugby, il y a quand même une notion de droit d'auteur un petit peu bizarre. Donc, puisque tu es quoi? Tu es photographe de presse ou bien
pas du tout.
T'achètes ton billet
Non, en fait, je fais les photos depuis les tribunes en général, mais ce que j'essaye de faire, c'est genre d'avoir les photos avant le match pour avoir des photos assez propres des joueurs pour pouvoir illustrer l'article.
Ouais, après ils sont un petit peu abîmés, c'est ça?
Ouais, après ils sont soit abîmés, soit on est trop loin, soit c'est pas facile parce que le rugby, je sais pas si vous connaissez, c'est un sport où il y a des jambes, des bras qui s'entremêlent un peu partout quand on fait des actions, et donc pour illustrer les articles, c'est pas obligatoirement très bon.
C'est sûr que prendre une photo dans la mêlée, tu veux prendre la photo du pilier pendant la mêlée.
Non, c'est pas facile. Tu risques plutôt d'avoir le point du deuxième ligne dans ta photo.
Et quels sont les thèmes que tu aimerais aborder et que tu ne peux pas, soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons purement matérielles?
Pour des questions purement matérielles, c'est bête, mais c'est des photos d'oiseaux. Alors je sais, tout le monde en fait, tout le monde aime ça, c'est joli, mais moi aussi. Excusez-moi. Et après, pour des questions juridiques, c'est surtout niveau des bâtiments, c'est un peu chiant. J'avoue que j'adore l'architecture et.
Du coup, ça doit être difficile.
Faut aller en Allemagne quoi pour pouvoir le faire. Il y a des exceptions au droit d'auteur en Allemagne, donc on peut publier des photos en Allemagne.
Tu veux dire qu'on peut pas prendre la médiathèque de Toulouse en photo?
Prend en photo un radiateur géant.
C'est pour montrer.
Qui en plus ressemble au Conseil général de la Haute Alsace.
C'est intéressant de prendre ce genre de choses en photo pour dire regardez, on paye ça.
C'était pour la démonstration de l'horreur architecturale, c'est tout. Ou pas.
Bon, après, des gens peuvent y voir un symbole ou ce qu'on veut, mais on peut prendre en photo, mais pareil, quand vous allez vouloir le publier en France, ça va devenir compliqué.
Le Capitole n'est plus soumis au droit d'auteur, rassure-moi.
A priori, non, ça fait assez longtemps qu'il a été refait.
Sauf si on le prend de nuit, puisque les éclairages eux-mêmes sont soumis au droit d'auteur. C'est le cas de la Tour Eiffel.
Ça c'est un peu compliqué, donc pour avoir regardé un peu le cas de la Tour Eiffel. Je connais pas trop mal ce sujet. Le cas de la Tour Eiffel, il y a eu un show de son et lumière qui a été filmé et pris en photo sur la Tour Eiffel. Donc ce show de son et lumière a été reconnu comme suffisamment original pour ouvrir des droits d'auteur. Et ce show a donc, bien sûr, il y a des cartes postales qui ont été interdites ou les gens ont été, on leur a dit, non, mais là vous devez des droits d'auteur à telle personne. Après, les éclairages en eux-mêmes, c'est assez compliqué. Il y a pas, enfin, la jurisprudence n'est pas très claire. Est-ce que c'est suffisamment original pour ouvrir des droits d'auteur? On ne sait pas. La Tour Eiffel, la société qui exploite la Tour Eiffel, elle a posé des brevets. Donc, essaye d'extorquer des droits d'auteur sur ces brevets, mais ma position, ça serait que de dire que. On n'essaye pas de reproduire l'éclairage, le système d'éclairage très compliqué de la Tour Eiffel, mais qu'on veut juste prendre en photo la Tour Eiffel. Et voilà, mais après, le droit d'auteur, ça reste toujours un problème où il n'y a pas suffisamment de jurisprudence pour qu'on sache vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. C'est pareil pour les bâtiments, en fait, il y a des exceptions qui vont s'ajouter parce que l'œuvre n'est pas centrale sur la photo ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment très peu de jugement finalement. Enfin, on va très peu au jugement et donc on n'a pas de jurisprudence claire qui dise ça vous pouvez le faire, ça vous pouvez pas le faire. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète, c'est l'incertitude pour les gens. Enfin, finalement, tu sais pas si ta photo elle est autorisée ou pas. Donc même si tu veux bien faire, tu sais pas.
D'accord. N'importe qui peut réutiliser tes photos sous certaines conditions, qui est la Creative Commons.
Ouais.
Est-ce que des fois on t'a prévenu de certains usages? Tu as eu des gens qui t'ont dit est-ce que je peux utiliser votre photo ou...
Alors oui, il y a des gens qui demandent. Je leur dis vous pouvez l'utiliser, c'est dans la licence, mais c'est très gentil de me demander. Ça fait toujours plaisir, on va dire. Enfin,
c'est valorisant.
Toujours l'ego. C'est valorisant, mais après moi je leur dis utilisez-la, c'est la licence. Hein. Vous avez juste à donner mon nom et dire que c'est une Creative Commons et vous l'utilisez. Et après, bah, y a d'autres gens qui l'utilisent naturellement. Ils vont sur Flickr, ils prennent, ils mettent donc licence Creative Commons. Donc on voit ça sur des journaux en ligne. Typiquement, ils le font généralement très bien. Ceux qui le font moins bien, généralement, c'est des gros journaux, genre Le Monde ou tout ça.
Oui, c'est un peu parce qu'ils mettent DR, copyright ouais, Le voilà, Monde, bon. Ouais. Enfin, ouais, c'est pas,
plus
c'est
l'organe
pas
de presse fin. Est gros, généralement. Bon, c'est pas bien de faire des généralités, mais c'est quand même souvent le cas.
Est-ce qu'on t'a signalé des cas, justement, en dehors des journaux, mais ça peut être dans une utilisation commerciale ou des choses comme ça, de l'utilisation de tes photos sans ton accord, sans que ça respecte tes règles, quoi.
J'ai pas eu de cas comme ça, j'en ai vu des fois sur internet où j'ai prévenu l'auteur gentiment, généralement. Enfin, c'est pas vraiment pour tirer des sous, hein, c'est plus pour le fait de. Enfin, si on met sous licence libre. Essayer que, enfin, surtout essayer que les gens voient qu'il y a des choses sous licence libre et que du coup, bah, peut-être ils se disent, ah, faudrait faire pareil. Sur la limite, moi, mes photos, je fais vraiment pas pour gagner de l'argent et je fais pas pour emmerder le monde. À la limite, si j'ai emmerdé quelqu'un, c'est plus des grosses institutions qui le réutilisent. Voilà, mais moi, si c'est, enfin, un mec qui l'utilise sur son blog, bah, qui l'utilise sur son blog, quoi.
Est-ce que tu as eu, puisque tu prends des photos un petit peu partout, on va peut-être te voir la semaine prochaine dans les allées du Toulouse Game Show.
Peut-être.
Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah, venez à notre manifestation, il y a plein d'auteurs, il y a plein de gens intéressants, ça nous ferait plaisir que, dans la Wikipédia, il y a marqué photo prise à tel endroit, à la foire du livre et de la bergère.
Genre ça, honnêtement, il y en a pas tant que ça.
Mais
par contre,
ça t'est arrivé.
Après non, mais souvent les libristes ils nous disent, ah bah venez prendre des photos. Bon, ça voilà. Donc, typiquement au Capitole du Livre, souvent on me demande, ah mais tu vas faire des photos. Oui, bon bah oui. Mais sinon, pour être honnête, non. Mais nous, quand on demande, ça nous arrive souvent quand même qu'on soit accepté et qu'on puisse aller faire des photos là-bas avec des accréditations, comme la presse, s'il faut. Donc on a comme ça pas mal de photos de sport, d'escrime ou de football féminin où nos photographes sont acceptés.
Alors, est-ce que tu as été sollicité par, je ne sais pas, des marchands de matériel de photo ou par des fabricants pour donner des cours, ce genre de choses, du coup ?
Pas du tout, mais je veux bien qu'on me donne des contacts. Non, je rigole, mais non, pas du tout.
D'accord. Dernière phrase, Pierre Selim, on va bientôt rendre l'antenne. Ouais. Juste une chose. Dans ce qui te plaît dans la photo, c'est quoi ? C'est le temps passé à essayer de saisir la bonne photo ? C'est le temps à dérocher tes photos, à les regarder ? Ou bien le temps que tu vas passer à mettre les données qui sont intéressantes, c'est-à-dire où c'est que ça a été pris et qu'est-ce qui est représenté dans la photo ?
Moi, c'est plus le geste, en fait. Le fait de réussir à un instant donné à immortaliser ce que je vois. Après, et après, pour moi, une photo, de toute façon, c'est quelque chose qui se partage, qui est naturellement, qui doit être vu, donc de le partager. Mais c'est plus le fait de pouvoir partager ma vision. Voilà, après, c'est assez personnel, mais j'ai des problèmes de vue. Et la photo, ça représente bien ce que moi, je vois. Donc, comme je vois pas en 3D, ça représente le monde comme moi, je le vois.
Donc, ah, je te rassure, il y a plein de gens qui trouvent que c'est agaçant de voir en 3D, surtout les films en 3D. Donc,
voilà, mais donc moi, ça me plaît de partager ma vision aux gens.
D'accord. Voilà. Il y a d'autres occasions pour te voir régulièrement ?
On essaie d'en mettre, mais pas pour le moment.
D'accord.
Si, le Capitole du Livre chaque année.
En tout cas, merci beaucoup Pierre Céline d'être venu pour parler un peu de ton activité au sein de la Wikimedia. On peut pas parler de travail, mais...
Non, c'est pour le fun.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
C'était le Supplément Week-end numéro 369 en direct du Capitole du Libre à l'ENSET. Venez, c'est jusqu'à demain 19h. Je crois que ça termine à 19h ce soir. Ça reprend demain à partir de 10h. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a plein de choses. Allez sur le site Capitole du Libre et vous aurez plus d'informations. Si vous écoutez l'émission en podcast, et ben tant pis pour vous. Il va falloir que vous repassiez pour le savoir. De suite, dans l'immédiat, du sport pour un spécial box avec... Ça va t'intéresser, mais il va falloir que tu fonces au studio. Amine Fédal, Richard Lobé, qui concourt dans la catégorie moins de 65 kilos. Antonio Mastropaska, directeur sportif du Toulouse Multibox. Ouais, ils vont surtout massacrer sushi et du sport. Thierry Drone et Romain Falandry. De suite, à 15h, il y aura Encéphalogramme Plat. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Boost sur FM sur 89.MHz. Si vous avez manqué le début de cette émission ou si vous avez écouté en diagonale, sachez que l'on a parlé avec Pouillou des NoéNotes, qu'on a parlé de cartographie libre, qu'on a parlé de signature d'email et qu'on vient de parler de photographie libre. Si vous venez vous-même, vous pourrez voir des bacs à sable qui changent de forme. Ah ouais, avec de l'eau qui...
Ah, c'est superbe.
Ça fait vraiment plaisir parce qu'enfin, on a un usage du bac à sable, on peut jouer. En fait, le sable...
Il n'y a pas que ça.
Il y a une console, il y a des parties, il y a une LAN partie avec des jeux libres. Pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu vidéo, c'est très très impressionnant parce que dans le monde du libre, il y a vraiment pas mal de sources.
Nom d'un petit mascotte en forme de pingouin. Eh ben, si vous avez manqué tout ça, heureusement grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web suppléantweekend.fr. Vous écoutez FMR 89.1. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, on se retrouve dans 15 jours. Ce sera le débrief du Toulouse Game Show, quoique peut-être sera préenregistré. De suite, je remercie énormément, bien évidemment, l'équipe technique de l'ENSET, l'équipe du Capitole du Libre, Eugène Datalone, qui a monté le matos et tout, etc., et qui est aux manettes aujourd'hui, Pouillou et Infested Grunt qui m'ont associé. Il est 13h29 et 12 secondes de mon côté. De suite, sushi et du sport. Bye.